Bonjour à tous. Tout le monde est prêt d'entendre sur ce sujet-là ce matin, sur le mariage? Oui. Je pensais qu'il y en a qui allaient amener leur robe de mariée. Donc, le sujet, c'est vivre un mariage épanoui. Dieu veut que nos mariages, que chacun de nous, on ait un mariage épanoui, rempli d'amour, et ça, dans ce temps-là, ça glorifie le nom du Seigneur. Et puis, on est beaucoup plus heureux, puis nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants sont beaucoup plus heureux quand que le mariage est épanoui. On va prier. Merci, Seigneur, encore, tous ces beaux chants sur l'amour, Seigneur, que ce soit l'amour qui nous unit, Seigneur, que ce soit toi qui nous rapproche les uns les autres, Seigneur, et qu'on glorifie ton nom, Seigneur, à travers notre marche, les gens puissent nous regarder aller comme couple et disent que qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là et qu'ils cherchent, et c'est toi, Seigneur, qui es au milieu de nos vies. On t'en remercie. Amen. Amen. On va commencer par Éphésiens 5, 25. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes. » Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. On va approfondir ça. Maintenant, l'autre pour les femmes, ça c'est Éphésiens 5, 22. Ça, ce verset-là, il y a des femmes qui l'aiment moins. On va vous l'expliquer. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Tous les couples chrétiens sont éprouvés. Chacun de nous, comme couple, on est trop éprouvé. On nous arrive toutes sortes de problèmes. Il n'y a personne qui ne sont pas éprouvés. Soit par le travail, ça va mal des fois, puis on peut avoir envie des fois de changer d'humeur. La maladie, quand ça arrive, c'est pas facile. À travers nos responsabilités aussi. Mais quand il arrive des périodes difficiles, et il va en arriver, il y en a eu, puis il va en avoir encore. Ce texte-là, dans Éphésiens 5, 22, n'invite pas le mari à dire à son épouse, « Femme, sois soumise à ton mari. C'est moi qui ronne. » Là, ça ne fera pas un mariage qui va être épanoui. Ça va faire un mariage qui va être flétri. Je vous dis ça parce qu'il y a une madame qui est venue ici, je ne nommerai pas son nom, a eu un mari, semblerait, qui était pas mal dans le sens de la soumission. Vous la connaissez tous, là, je ne la nommerai pas. Ben, elle a encore des difficultés avec ça. Femme, sois soumise à ton mari. Mais au lieu de parler avec autorité, le mari, au lieu de parler avec autorité, rappelons-nous aussi ce que Jésus nous a dit à chacun, autant pour le mari que pour la femme. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ, de Christ. Ici, dans le mot, là, c'est dans le sens d'une soumission mutuelle. Cette soumission s'adresse aux deux, autant à l'homme et à la femme. Le mot « soumission », c'est « hypotasso ». Ça veut dire « entre autres ». C'est beaucoup de défis, beaucoup de choses, ce mot-là. « Entre autres », ça veut dire « coopérer » pour assumer nos responsabilités. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme commande et la femme obéit. C'est pas ça du tout, du tout. Mais de marcher ensemble, chacun attentif au bien-être de l'autre. C'est une soumission mutuelle, fonctionnelle. Chacun se met au service de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Le mari se dévouant pour sa femme et la femme honorant son mari. C'est dans ce sens-là. S'il y a des maris qui ont des soupçons sur ce mot-là, je leur invite à faire des recherches. n'ai pas tout passé le message dessus pour expliquer ça, là, mais c'est très, très clair dans la parole de Dieu. C'est très clair. C'est une soumission mutuelle, autant pour un que pour l'autre. Éphésiens 5, 21 nous le rappelle aussi. Fait que s'il y a des maris aussi qui voulaient venir nous voir chez nous, je serais heureux de vous expliquer ça. J'ai passé pas mal de temps sur ce verset-là. C'est une soumission, il n'y a pas un qui peut dire, j'ai déjà entendu dire, s'il arrive un problème, c'est le mari qui décide. Le verset ne dit pas ça. Le verset ne dit pas ça. On s'assise ensemble, puis on discute ensemble pour trouver la solution. Ce verset-là, il a chatouillé beaucoup d'épouses. Il a chatouillé beaucoup d'épouses. C'est la bonne définition. Je vous invite à faire. Si les hommes veulent faire des recherches, on les invite à faire des recherches, à venir me voir, on peut discuter là-dessus. C'est pas ma définition, c'est la définition de la parole de Dieu. C'est ça qui est important de donner. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il, c'est Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Paul rappelle que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la nôtre. Dieu est fidèle, même si on ne l'est pas, Dieu reste fidèle. Voyez-vous, ça nous parle, ça, hein? Même quand l'être humain tombe dans différents problèmes, Dieu, lui, reste stable. Il reste fiable en tout temps. C'est rassurant de savoir ça, hein? Que Dieu est tout le temps fidèle. Même si je tombe, Dieu est fidèle. Quand le mari ou la femme traverse des moments de faiblesse, comme vous ai dit tantôt, des fois la maladie, des problèmes financiers, le stress, on ne fait pas tout le temps pareil. Des fois, notre humeur change. Hein? Ça arrive. L'amour de Jésus en eux va les diriger à demeurer stable, aimant, patient. Leur confiance en Dieu va les garder unis. On va agir comme Dieu agit envers nous. Si on n'est pas fidèle, des fois, notre caractère change. Dieu ne change pas, lui. C'est de même qu'on doit agir l'un envers l'autre, l'un envers l'autre, en gardant les yeux sur Jésus. Ça va se produire dans nos cœurs. On a vu tantôt l'amour nous garde unis. Un mariage sain et épanoui repose sur l'amour sacrificiel. Dieu nous aime d'un amour sacrificiel. On va se sacrifier pour l'autre. C'est ça que Dieu nous demande, d'aimer nos femmes comme ça, et la femme doit aimer son mari comme ça. Ça comprend le respect et toutes ces choses-là qui rentrent là-dedans. Prêt à se sacrifier pour l'autre. Comme Jésus aime son Église. Jésus nous a promis de nous aimer combien de temps? Jusqu'au bout. Dieu nous a promis de nous aimer jusqu'au bout. Dieu nous aime d'un amour éternel. Rappelons-nous ça. Dieu nous aime. Éternel, c'est-tu bien court, ça? C'est-tu pour un an? Pour toujours. Hein? On pourrait dire ça dans Jérémie 31, 3. Dieu nous a promis de tout le temps nous aimer. Est-ce qu'on a promis à notre femme, à notre mari, un jour de toujours l'aimer? J'ai été choqué de la formule qu'on citait quand on s'est marié. Ça fait longtemps, je n'avais pas entendu cette formule-là. Michel, il devait assister de temps en temps. Il a amené tu as fait des mariages de temps en temps, je pense. Rappelons-nous cette promesse-là qu'on a faite à nos femmes, à nos maris. Ça disait ça comme ça. Je pense qu'ils l'ont rendu un petit peu, mais c'est dans le même sens. Moi, mettez votre nom, Jean-Marc Bauduc. Je te promets, Yolande Thibaudot, pour être ma femme, et elle disait mon mari, je promets de rester fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie et dans la santé, de t'aimer et t'honorer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dieu nous a promis de nous aimer jusqu'au bout, mais on a fait cette promesse-là. Il faudrait s'en souvenir. Il y en a qui l'ont oublié. Mon beau-père faisait des farces. Avec ça. Il dit, je pensais qu'elle l'avait promis pour la nuit. Mais là, je me suis vu que mon matin est encore là. Il dit, comment ça? Ah, il a dit, c'est pour la vie. Ah, pour la vie, il dit. Mais on a aussi tout ensemble, toute leur vie. Ils faisaient des farces. Donc, on s'était engagé à s'aimer malgré nos imperfections. On a pris cet engagement-là. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Dans un couple, cela signifie on n'attend pas que l'autre soit parfait pour l'aimer. Parce que si on attend de l'aimer qu'il soit parfait, il ne sera jamais parfait. On ne sera jamais parfait dans le sens ici-bas. Aimer, c'est supporter l'imperfection. On l'a chanté. L'amour supporte tout, hein, en Corinthiens 13, 4 à 7. On n'aime pas notre conjoint parce qu'il mérite. On ne mérite pas l'amour de Dieu, puis il nous aime. On mérite-tu l'amour de Dieu? Dieu nous aime. Hein? L'amour, c'est un choix. Hein? Pour se rappeler ça, l'amour, c'est un choix. L'on choisit d'aimer même quand l'autre devient parfois difficile à aimer. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Ça peut arriver que l'autre devienne difficile à aimer. On reconnaît que nous-mêmes, on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, soyons gracieux, nous autres aussi. Hein? Soyons gracieux. Jésus ne quitte pas son Église quand elle trébuche. Après longtemps qu'il l'aurait quittée. Il reste fidèle. Il l'a promis. Dans le couple, cela nous rappelle que l'amour n'est pas conditionnel. On ne se retire pas dès que l'autre a déçu. Je pensais pas qu'un mariage, c'était comme ça. Moi, je fais mes valises et puis je m'en vais. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on a promis. C'est pas ça. Colossiens 3, 14. Je vous lis dans la Bible, Tradition sommaire. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Ce matin, on s'est habillé, hein? Il faut se revêtir de l'amour, qui est le lien par excellence. Mais vous comptez une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient mariés depuis plusieurs années. Au début, tout allait très, très, très bien. Pendant plusieurs années, ils se faisaient toutes sortes d'activités ensemble, des loisirs ensemble, ils ont construit des affaires ensemble, ça allait bien, des petits accrochages des antennes, mais c'était des vrais Roméo et des Juliettes. Bon, c'est pourtant que je ferais ça. Ça a-tu existé, ce Roméo et Juliette? Oui, pensez-vous. Les vrais Roméo et Juliette. Mais un jour, après une dispute un peu plus forte que les autres, la femme blessée enleva son alliance et le posa sur la table. C'est trop tôt pour ça, il y a un jugement. Elle veut trouver des belles alliances. Hein. Elle a pris son alliance. Pchit! Ça gore pas bien, ça, hein? Le mari la regarda. Il regarda l'alliance. Il prit sa propre alliance, il l'a enlevée, puis il l'a mis sur la table. La femme a dit, c'est pour moi, c'est fini notre affaire. Hein? Ça gore pas bien. Pensez-vous que c'était fini? Dans ces là, c'est ça pour demander à l'aide de Dieu, hein, qu'on ait un esprit créatif, des paroles remplies d'amour. Hein. Alors, la femme-là a dit, je pense que c'est fini notre mariage. Il s'approcha de sa femme et de l'anneau qui était mis à côté. Il regarda son alliance et il dit, regarde l'alliance, ma femme. Cette alliance, as-tu remarqué que c'est rond? C'est rond, elle est ronde. Ça veut dire ça? Qu'elle n'a pas de fin. Notre alliance, ça veut dire que ça ne doit pas avoir de fin. Là, il y avait du visuel. Hein? Comme si elle nous disait, Dieu nous a unis pour la vie. C'est Dieu qui nous a unis pour la vie. Notre unité n'aura pas de fin si on laisse Dieu nous tenir ensemble. Là, la femme, elle a réfléchi. Elle a remis son alliance. Elle a remis son alliance. La dispute avait disparu. Ils avaient choisi de ne pas laisser la déception décider de leur avenir. Ils ont choisi la réconciliation qui reflète le pardon de Dieu. Vous savez, dans des moments comme ça, la douceur va désamorcer les disputes. Il faut y aller avec douceur et respect, comme tu dis, Guylaine. Douceur et respect. Ça change complètement la donne. Hein? Donc, cela implique de ne pas nourrir le ressentiment. Chercher la paix plutôt que d'avoir tout le temps raison. C'est moins que raison. L'autre a dit, c'est moins que raison. Et là, se rappeler que l'autre, c'est un cadeau de Dieu, hein? Pas un adversaire à combattre. Dieu nous a donné une femme, un mari, c'est un cadeau de Dieu, pas un adversaire. Ecclésiaste 4:12. On va attendre que les pages soient arrêtées de virer. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Quand le Seigneur est au centre d'un couple, cela change tout. Notre union ne dépend plus que de notre volonté humaine. On a une autre force qui vient nous aider, la puissance de Dieu qui est en nous. C'est un brin d'acier, on peut dire, hein? Meilleur que l'acier. Dieu est notre soutien quand les deux faiblissent. C'est ça qui est plaisant avec le Seigneur. Dieu est mon soutien. Quand l'un des deux faiblit ou quand les deux faiblissent, Dieu reste toujours là pour nous soutenir. Quand tout semble sur le point de rompre, Dieu empêchera la rupture de notre mariage. Parce qu'il sait parler à nos cœurs pour ramollir des fois notre orgueil. On a de l'orgueil des fois, hein? L'autre ne répond. Ramollir notre rancune et parfois ramollir cette colère qui est en nous. Mais sans Dieu, les conflits deviennent souvent des champs de bataille. Une lutte pour avoir raison. Souvent, c'est ça qui cause des divorces. On lutte pour avoir raison. Seul Jésus sait comment détacher notre regard des conflits et pour l'orienter vers lui. C'est ça qui est important. Arrêtons de regarder qu'est-ce qui nous divise et regardons celui qui nous unit. Et ça va changer complètement la donne. Regardez vers Dieu. En ranimant notre confiance en Jésus, alors le ton de notre voix va diminuer. Nos pensées vont s'orienter pour laisser la parole de Dieu diriger nos paroles et nos actions. Ici, je voulais mettre cette petite parenthèse-là. Parce qu'il y a certains couples, vous savez, c'est plus difficile que d'autres. La plupart des couples sont séparés pour une journée. L'homme va travailler ou la femme va travailler. On se sépare pour une journée. Mais pour d'autres couples, c'est différent. Il y en a d'autres qui se sont séparés pour plusieurs journées. Moi, j'écoute l'émission à Fermont. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça ici. Là. C'est dans. Comment ça se passe dans le Nord, comme ça. Mais des couples qui sont séparés des fois pour plusieurs semaines, c'est ceux qui sont rendus là. Il y a des couples qui sont séparés pour un bon bout de temps. Parfois, pour son travail, le papa va partir pour de longues périodes. Alors, la maison peut sembler vide pour la maman qui est seule à s'occuper de plein de choses. Il y a plein de choses à s'occuper dans ce temps-là. Là. Mais avec l'aide de Jésus, ils trouveront des moyens pour renforcer leurs liens. Il y a des moyens. Il faut avoir un esprit créatif dans ce temps-là. Le papa, avant de partir, il peut exprimer sa gratitude. On peut pas, moi, j'ai nommé quelques petites affaires, c'est là, avec un geste pour lui préparer un petit déjeuner avant de partir. C'est gentil, là, on m'en va pour une semaine. Là. On fait un bon petit déjeuner avant de partir. Durant la journée, il lui a envoyé un texto pour lui rappeler qu'il l'aime. Le soir, peut-être un appel vidéo pour avoir des contacts, comment ça se passe à la maison, et toutes ces choses-là. La maman, pour le retour de son mari, a pu planifier un repas au restaurant, une réservation, une promenade, un encouragement, une activité ensemble. Il s'agit pour ces couples-là, qui sont séparés des fois assez longtemps, ces couples-là, de demander l'aide du Seigneur, dirige-nous, Seigneur, pour quand on est séparés, qu'on trouve des moyens pour nous affermir, Seigneur, ensemble. Genèse, chapitre 2, le verset 18. Un verset des fois qu'il lit dans les mariages, ces choses-là. Hein? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu voyait que même dans un monde parfait, Jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme vive tout seul. Le mariage répond à ce besoin-là d'une relation profonde, de partager notre vie avec quelqu'un, d'avoir une intimité avec quelqu'un. Le mariage vise l'unité. Si vous me demandez pourquoi Dieu il a fait le mariage, c'est dans le but de l'unité. Dieu veut qu'on soit unis. L'un n'est pas complet sans l'autre. Chacun a des forces et des sensibilités différentes. On a des talents, on a des dons, on est tous différents. En deux, on se complète. Ce n'est pas seulement d'avoir quelqu'un dans notre vie, mais de marcher ensemble dans l'amour. Il y a un chant là-dessus. Hein? Marcher dans l'amour, on marche dans l'amour. Le mariage est un lieu d'apprentissage. Et oui, on apprend la patience. On apprend à pardonner. On apprend le don de soi à se donner, à façonner notre caractère. Seul, ces choses-là, ça va savoir moins se faire vite. Mais là, le mariage, ça va plus vite un peu. Supposé. Dieu nous enseigne à travers le mariage. Ecclésiaste 4, 9 et 10. Un beau verset pour ça. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le verset 10 explique aussi une belle chose. Hein? Car si tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ensemble, nous avons du soutien dans les épreuves. Tu n'es pas tout seul pour traverser l'épreuve. C'est une bonne chose, hein? De la joie à partager. C'est quelque chose que tu veux te réjouir, mais tu es tout seul. Une protection contre l'isolement. Il y en a beaucoup qui souffrent de l'isolement. Une croissance spirituelle plus facile. Et on pourrait rajouter plein de choses de même. C'est avantageux. À moins que Dieu t'a appelé à vivre célibataire. On n'est pas tous appelés sur ce côté-là. Il y en a qui sont appelés à être de même. L'apôtre Paul est appelé à être de même. Mais la plupart, c'est le mariage. C'est le mariage. Adam avait déjà commencé à travailler sans Ève. Mais sans Ève, il n'était pas complet. Il lui manquait quelque chose. Il savait dans son cœur qu'il lui manquait quelque chose. Seuls, nous pouvons réussir à faire beaucoup d'affaires. Adam a fonctionné un bon bout de temps. Mais dans notre cœur, nous pouvons être comme Adam, nous sentir vides. Il nous manque une compagne, hein? Quelqu'un qui soit à notre côté. Ensemble, ça serait le fun. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui dit. L'isolement n'est pas dans le projet de Dieu pour l'être humain. Nous sommes des êtres relationnels, créés pour s'épanouir ensemble. Dieu fit la femme d'une côte de l'homme. Il ne l'a pas créée, vous savez, à partir de sa tête pour qu'il la domine. Hein? Vous connaissez ces passages-là? Hein? Il ne l'a pas créée à partir de la tête pour qu'il la domine. Ou il ne l'a pas créée à partir du pied d'Adam pour que Adam l'écrase. Mais il l'a pris près de son cœur pour qu'elle soit aimée, qu'elle soit protégée, marchant à son côté. Ça parle d'égalité de valeur. L'un n'est pas sans l'autre. Il n'y en a pas un qui domine plus que l'autre. Genèse 2, 23. Ici, c'est marqué « Et l'homme », il s'agit d'Adam. Et Adam dit « Voici ». Et dans la Bible français courant, là, c'est une exclamation. C'est « Ah !» Une exclamation. Il s'est exclamé en disant ça. « Cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Adam, il avait étudié toutes les choses. Il avait étudié la nature. Il avait étudié les animaux. Il a regardé les autres. Il a donné des noms à tous les animaux. Il a tout regardé. Il était tout seul. Il a fait beaucoup d'affaires. Mais il ne trouva rien qui réponde à ses besoins. Tout ce qu'il y avait sur la terre, tout était beau, mais il n'y avait rien qui correspondait à ses besoins. Il se sentait tout seul. Il n'y avait rien qui correspondait à ses besoins. Un jour, à son réveil, il se réveille, il y avait auprès de lui une jeune femme magnifique. Wow! Hey! Il devait être content. Hein? Il devait sauter de joie, cet homme-là. Il se réjouit de ce beau cadeau que le Seigneur lui avait apporté dans sa grâce. Il dit « Os de mes os et chair de ma chair », comme s'il voulait dire « cette fois-ci, un autre moi-même ». Les gens qui ont fait des recherches sur le mot hébreu, ils disent que ce « A-là », cette phrase-là, c'est un élan de surprise et de joie. Un élan de surprise et de joie terrible qu'Adam avait. Il avait un lien très étroit entre eux. Il était vraiment... Quelle, pensera à ça, là, c'est pas une étude. Pense à ça, quelle attitude Adam devait avoir quand il a vu Ève aux côtés de lui. Les yeux d'Adam étaient émerveillés de voir cette belle femme et intelligente que Dieu avait mis à ses côtés. Wow! N'est-ce pas le regard de chaque couple devrait avoir pour l'un et l'autre? S'émerveiller de notre femme, s'émerveiller de notre mari. Ça éviterait bien des problèmes. Hein? Ce verset suggère que le couple devrait maintenir cette vision d'émerveillement et de respect, valorisant leur partenaire comme un don unique et irremplaçable que Dieu leur a donné. Se laisser à chaque jour diriger par l'amour de Dieu, c'est ça qui est important. Un émerveillement contenu de notre premier amour. S'émerveiller comme la première fois qu'on a vu ton mari ou tu as vu ta femme. Vous en rappelez-vous cette journée-là? La première fois que vous avez jeté les yeux sur ton mari ou ta femme. S'en rappeler. Hein? Continuons à voir l'autre comme un cadeau et non comme un acquis. Ça, là, c'est le problème de beaucoup de couples. Ils voient l'autre comme un acquis. Je l'ai, c'est à moi, on passe à d'autres choses. C'est un cadeau que tu dois garder, chérir, aimer, respecter, manifester de l'amour. On n'est pas un acquis. Quand c'est rendu comme ça, là, c'est dangereux. Adam reconnut Ève comme son égale. Il l'a reconnue. Ça devrait toujours être de même pour nous autres aussi. Ce regard fortifie l'identité de l'autre. Il renforce le sentiment de sécurité dans le couple, même à travers les imperfections au quotidien. On sait que l'un n'est pas sans l'autre, on est égal et on marche ensemble. Ça fait un choix de sécurité dans le couple. Je termine avec le dernier verset, Proverbes 5, 18 et 19, dans ce mode. Vous lirez ça ce soir ensemble comme couple, là, hein, après un repas ou peu importe. Hein. Proverbes 5, 18 et 19. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. C'est bien écrit sans cesse. Hein? Nous avons tous changé un peu physiquement depuis qu'on est mariés. Hein? On a tous changé un petit peu. Êtes-vous d'accord? D'autres, on a peut-être changé plus, d'autres moins, mais on a tous changé un petit peu. On n'est plus pareil. Mais notre regard, lui, il ne doit pas vieillir. Quand on regarde notre femme, notre mari, on voit ici que le regard, il ne doit pas vieillir. L'expression « femme de ta jeunesse » nous rappelle que même si le temps passe, le mari et la femme sont appelés à voir l'autre comme le jeune homme, comme la jeune femme qui a épousé. C'est ça que ça dit dans le verset. Voir l'autre comme le jour que tu l'as marié. Épris sans cesse de son amour. À garder intact l'émerveillement des premiers jours. Ce principe peut aider les couples à s'épanouir encore aujourd'hui en 2026 et au fil des années. Se souvenir du jour de notre mariage, c'est de reconnecter à la joie d'avoir choisi l'autre. Ça nous rebranche à cette joie qu'on a dit un jour oui et on a dit oui pour la vie. Et comme conclusion, c'est une citation que je vais vous partager. Une citation qui nous rappelle que dans les mariages, il y a des difficultés. Comment agir dans ce temps-là? J'ai été sur l'intelligence artificielle, j'ai dit, peux-tu me mettre une photo sur cette citation-là? Alors, et c'est vite, ces petites bébites-là, hein? Ils m'ont sorti une photo pour qu'ils voient avec la citation qu'elle va vous apporter. Yannan, on va la mettre à l'écran. Quand l'amour est gardé vivant à travers les tempêtes, vous voyez, ils ont vu des tempêtes dans leur vie. Chaque couple a des tempêtes dans leur vie. Quand l'amour est gardé vivant à travers les tempêtes, il renaît plus éclatant encore, paré des couleurs de l'arc-en-ciel après la pluie. Il s'agit de garder nos mariages vivants. Même si ta robe de mariée, ton habit est fripé un peu, c'est dans le cœur. Gardons notre mariage vivant, puis il va ressortir encore plus beau, un peu comme la tempête. Après la tempête, souvent, il arrive une arc-en-ciel. Et on ne l'aurait pas vu, cet arc-en-ciel-là, s'il n'y aurait pas eu de tempête. Et les gens regardent aller, ils voient qu'on sort à travers les tempêtes, on éclatant comme un arc-en-ciel. Ils vont dire, waouh, qu'est-ce qu'ils ont gardé unis? Elle voudrait savoir ça. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.